Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette grande conférence sur Lovecraft, donc le maître de Providence, une vie, une biographie. Alors c'est le petit moment. Publicité. On va donc parler de cette biographie qui est sortie chez Actu SF. C'est un des grands moments, je pense, en tout cas, un des grands livres de l'année. Ça a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de pages. Et donc, et avec nous, on a beaucoup de chance. L'auteur S.T. Joshi est là et va répondre à nos questions et aussi à vos questions, puisqu'à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Et puis aussi, je crois que dans la salle, il y a une partie de l'équipe de traducteurs. Peut-être qu'ils peuvent lever la main. Voilà, Christophe, Thiel, bon, bah, c'est le seul qui... Voilà, c'est lui qui a dirigé aussi toute la partie traduction, puisque ça a été une vaste aventure. Et peut-être à la fin, Christophe pourra nous dire un ou deux mots sur comment on traduit une œuvre comme ça. Alors, je vais laisser la parole à S.T. Joshi. Et donc, on va la première question, on va commencer juste pour vous prévenir. On a décidé tous les trois ensemble qu'on a préparé cette conférence de faire quelque chose d'assez généraliste pour vraiment présenter Lovecraft, parler de la vie de Lovecraft. Donc on s'excuse pour les spécialistes et les forcenés de Lovecraft. Voilà, on veut vraiment, l'objectif de cette conférence est vraiment d'ouvrir et de présenter cet homme, son œuvre au grand public. Alors pour commencer, S.T. Joshi, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert Lovecraft et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans cette vaste biographie qui a duré plusieurs années?
As with so many others, I discovered Lovecraft about the age of 13 or 14, and it's a wonderful time to come upon literature of this sort.
Ouais, comme beaucoup d'autres, j'ai découvert l'œuvre de Lovecraft quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans, et c'est un âge vraiment super pour découvrir ce genre de littérature.
It is a time, I think, when many young people are looking to expand their horizons and perhaps to get away from the daily reality.
C'est un âge où les jeunes gens ont vraiment envie d'élargir leurs horizons et vraiment ont envie de fuir la réalité.
And so, I came upon a little anthology of stories that had the Dunwich horror in it. Now, I cannot distinctly recall my impressions at that time, but I do remember this atmosphere of the strange New England environment that emerged from that story.
À l'époque, j'ai découvert justement dans une anthologie de Dunwich Horror, l'abomination de Dunwich. Et je me souviens pas exactement parce que ça fait un moment, mais j'ai vraiment le souvenir de cette atmosphère étrange de Nouvelle-Angleterre, vraiment très très sombre, qui m'avait beaucoup marqué.
Soon afterwards, I found entire books by Lovecraft in my library, and I simply became fascinated first with his prose, a very complex, dense prose, and then with his tremendous imagination.
Et donc très vite, je me suis retrouvée avec beaucoup d'œuvres de Lovecraft dans ma bibliothèque, et je me suis mis à vraiment développer, avouer une grande, grande fascination pour la prose de cet homme qui est très très complexe, il faut le dire. Et puis aussi, j'étais fascinée par sa puissance, la force de son imagination, de son imaginaire.
But almost from the beginning, I found Lovecraft, the man himself, to be of some interest. Now, at that time, very little was known about Lovecraft, or at least very little was available to the general public.
C'est non seulement j'étais fascinée par son œuvre, mais aussi par lui en tant que personne. C'est quelqu'un de vraiment très 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 fascinant. Et puis on en savait très 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 peu à propos de sa vie à l'époque.
And then it just went on from there.
Et voilà, c'est là que tout a commencé. J'étais partie pour un bon moment.
Mais d'ailleurs, justement, Esti, comment ça s'est... Est-ce que vous pouvez nous parler des grands moments de la vie de Lovecraft?
I like to say that Lovecraft's life is not greatly full of incident, but very interesting in details. As a writer, of course, he spent most of his time writing.
J'ai coutume de dire, j'aime bien dire que la vie de Lovecraft, elle n'était pas vraiment truffée d'incidents, d'événements toujours super palpitants. Hein. C'était un écrivain, donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait de sa vie? Il écrivait.
So he was born in 1890 in Providence, Rhode Island, in New England, and spent the first 34 years of his life there. Now, his schooling was quite irregular. He was somewhat sickly as a child, and so he didn't get regular schooling, but he learned a great deal on his own.
Il est donc né en 1890 à Providence, dans l'état du Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, où il a passé 34 ans de sa vie. Il a bien sûr été scolarisé, mais de manière assez irrégulière, parce qu'il faut savoir qu'il c'était un enfant très très maladif. Donc il n'a pas... Il a eu voilà beaucoup de lacunes à l'école, mais il a appris énormément de façon autodidacte.
Eventually, he got interested in what was called amateur journalism, a small group of people who like to publish their own little magazines and send them around to each other.
Et puis, au bout d'un temps, il a commencé à s'intéresser à ce qu'il appelait le journalisme amateur. Voilà, il a fait partie de petits cercles de gens qui avaient envie voilà, de d'écrire des articles à propos de ce qui se passait dans leur communauté autour d'eux.
One of the people he met was a woman named Sonia Green, and they seemed to become very interested in each other, wrote a lot of letters back and forth. She was living in New York, he was in Providence, she would come to visit him and he would visit her.
Et puis une des personnes qu'il a rencontrées dans ce milieu-là, c'était Sonia Green. Et donc ils avaient des atomes crochus, ils ont commencé à s'envoyer, à s'écrire régulièrement. Elle habitait à New York et lui à Providence.
So they decided to marry in 1924. And he left Providence and came to live in New York. But unfortunately, the marriage was a very bad marriage.
Et donc, en 1924, Lovecraft a décidé de quitter Providence pour aller s'installer à New York. Ils ont décidé de se marier. Mais malheureusement, ça a été un mariage vraiment assez désastreux.
So 2 years later, in 1926, he simply went back to Providence and Sonia was basically left to fend for herself.
Donc 2 ans après seulement, Lovecraft est retourné à Providence et puis Sonia était livrée à elle-même.
So even though these 2 years in New York were very difficult, they somehow seemed to release a creative instinct in him. So when he returned, that is when he began writing these great tales of the Cthulhu mythos. And that is how he built his reputation.
Donc si ces 2 années à New York n'ont pas été très heureuses pour lui, ni très fructueuses, elles lui ont quand même donné l'impulsion créatrice. Parce que c'est en revenant de ce séjour de 2 ans à New York que Lovecraft a trouvé l'inspiration pour commencer le mythe de Cthulhu.
But he was never a terribly healthy man, In the 1930s, he began developing symptoms of some difficulties, but he never got them treated. It turned out it was cancer of the intestine, and he died quite young at the age of 46.
Il a jamais été un homme très très. Il a jamais été en très bonne santé, Lovecraft. Hein, et au cours des années 30, il a commencé à développer des différents symptômes, mais qu'il a un petit peu mis sous le tapis. Il a jamais essayé de savoir ce que c'était plus précisément. Et puis il s'est rendu compte plus tard qu'en fait il s'agissait d'un cancer de l'intestin auquel il a succombé à l'âge de 46 ans.
Comment Lovecraft a été redécouvert, puisque vous ne l'avez pas encore précisé, mais on ne connaissait pas beaucoup Lovecraft à l'époque de ses écrits. Il n'a pas eu un succès fulgurant. Comment ça s'est fait, cette redécouverte?
to my mind, this is a tale of the bizarre, more bizarre than anything he himself wrote.
À mon humble avis, je trouve que c'est une histoire encore plus étrange que toutes les histoires étranges que lui a pu créer.
When he died, Lovecraft did not have a single collection of stories published. There had been attempts to negotiate with publishers, but they amounted to nothing, and his work had only appeared in what were called the pulp magazines of the day, like Weird Tales.
Et au moment de sa mort, il n'avait pas un seul recueil de nouvelles de publier à proprement parler. Il avait fait quelques tentatives, évidemment, d'approcher des éditeurs, mais ça n'avait jamais débouché sur rien. La seule production littéraire publiée qu'il ait eue, c'était des parutions dans ce qu'on appelle la presse, les magazines pulp, voilà, dont Weird Tales.
So when he died, it was a great tragedy to his friends. They did not realize how ill he was. And a number of them said, we must do something to save Lovecraft's work from oblivion.
Et donc quand il est décédé, ça a été une grande tragédie pour tous ses amis qui, bien évidemment, puisque lui-même le cachait, n'avait pas conscience de la gravité de sa maladie et qui se sont dit, mais attendez, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour sauver son œuvre.
Two friends in particular, August Derleth and Donald Wandry, founded the publishing firm of Arkham House, initially for the sole purpose of publishing Lovecraft's work in book form.
Et alors deux de ses très grands amis, August Derleth et Arnold Wandry, ont décidé de créer une maison d'édition qui s'appelait Arkham Press dans le seul but de venir à la rescousse de l'œuvre de Lovecraft.
These books began to come out in the late 1930s into the 40s. And very, very slowly, they developed an audience. Lovecraft began appearing in paperback editions and in some editions overseas as well.
Et petit à petit, ces livres ont commencé donc à apparaître. Ça a commencé à la fin des années 30. Et ça s'est poursuivi jusque dans les années 1940. Ça a été un processus assez lent, mais ils ont réussi à trouver un certain lectorat. Et donc Lovecraft a pu être publié tout d'abord en poche, et puis aussi à l'étranger.
Finally, around the late 1960s, Lovecraft seemed to become a more popular figure. His paperback books were selling quite widely in the United States. Films began to appear based on his work. And now that has just built upon itself such that now Lovecraft is a worldwide figure.
Et puis, au bout d'un moment, à la fin des années 60, Lovecraft est vraiment passé à la postérité. Il est vraiment devenu un auteur de la culture populaire à part entière. Il a commencé à être publié très, 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 très largement aux États-Unis en format poche. Il y a des films, des adaptations cinématographiques qui ont été créées à partir de ses œuvres. Et il est devenu vraiment une figure internationale de la littérature.
Justement, comment on fait pour écrire une biographie d'un homme comme Lovecraft ? Sur quoi vous vous êtes appuyé ?
In a case like someone like Lovecraft, we are faced with what I believe the French himself called l'embarras des riches, the embarrassment of riches.
Dans le cas d'un auteur comme Lovecraft, je crois qu'on se retrouve confronté à comment dire. En fait, on croule sous une. Il y a une telle richesse d'informations que voilà, on croule sous l'information. On n'a que l'embarras du choix. Je crois que c'est comme ça que vous dites en français.
This is because Lovecraft left behind an enormous body of correspondence. This is how he communicated with people, not face to face, but through writing letters. And there are thousands and thousands of letters that survive, in which he reveals the most intimate details about himself.
Oui, alors Lovecraft avait une vie épistolaire foisonnante. Et donc, il y a un corpus énorme de ces lettres qui ont été conservées. C'était son moyen de communication. Il n'aimait pas voir les gens en chair et en os, face à face. Et donc, par conséquent, il y a des milliers de ces lettres qui ont été conservées, qui ont survécu. Et donc, c'est une manne d'informations pour découvrir des détails sur lui, notamment des détails vraiment très, très intimes parfois.
Also, many of Lovecraft's friends and colleagues wrote memoirs about meeting him, and they also provide great illumination about his life. In particular, his wife Sonia wrote a very poignant memoir dealing with her life with him.
Et en plus, ses amis proches, nombre de ses amis proches avaient écrit des essais, des témoignages à propos de leur rencontre avec Lovecraft, l'homme. Et ça apporte un éclairage très très intéressant sur justement la vie de Lovecraft. Et donc notamment sa femme, Sonia Green, a écrit un texte très 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 poignant sur sa relation avec Lovecraft.
So, in some ways, the difficulty is to absorb all this material and boil it down into this large biography. Perhaps I could have written even more, but of course, one doesn't want to just write a daily chronicle of Lovecraft. One has to shape this material to present it as a coherent whole.
Oui, donc la difficulté à partir de là, c'est de réussir à absorber toute cette matière foisonnante pour réussir à en extraire le nectar. Et donc c'est vrai que j'ai écrit une biographie qui est vraiment très 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 longue, très très volumineuse. Mais si ça se trouve, avec tout ce que j'avais comme matière à la base, j'aurais pu écrire quelque chose d'encore beaucoup plus long. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il ne s'agissait pas d'écrire une espèce de chronique ou de compte-rendu du quotidien de Lovecraft, ça n'aurait eu aucun intérêt. Ce qu'il fallait, c'était réussir à créer un tout qui soit cohérent et qui éclaire sur la vie de Lovecraft.
Quand on lit Lovecraft, on se rend compte qu'il est très intéressé, voire même obsédé par ce qu'on pourrait appeler l'horreur cosmique. Comment, à quel moment dans sa vie Lovecraft commence à s'intéresser à ce concept, et pourquoi justement cette horreur cosmique est-il si important dans son travail?
Lovecraft is, I think, rare among literary figures for his interest in science. In particular, he absorbed the interests of in chemistry and astronomy at a very early age.
Oui, Lovecraft est vraiment un oiseau rare dans le monde de la littérature, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui se sont autant intéressés à la science que lui. Dès son plus jeune âge, il s'est mis à absorber, à emmagasiner tout un tas de connaissances incroyables en chimie, en astronomie.
He himself states that about when he discovered astronomy at about the age of 12, it opened up the cosmos to his gaze for the first time, and it was to him one of the most extraordinary experiences of his life.
Il a dit lui-même que quand il a découvert l'astronomie à l'âge de 12 ans, ça a vraiment, c'est ce qui lui a permis de découvrir pour la première fois le cosmos, de voir le cosmos de ses propres yeux. Et à partir de là, il a commencé à développer un intérêt très très fort pour cette matière.
This was also the time when, as he states, he became an atheist, and I think that's a very important aspect of his work, because a lot of his work, in spite of the fact that it seems to talk about gods and demons, is in fact fundamentally based on an atheist conception of the universe.
Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, et comme il le dit lui-même, Lovecraft, il était athée. Cette croyance, ce positionnement qu'il avait par rapport aux religions, occupe une place primordiale dans son œuvre. Parce que, donc, comme vous le savez, il y a tout un panthéon, on voit beaucoup de dieux, de démons dans son œuvre. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'était un auteur qui avait des croyances religieuses particulières. Tout ce panthéon était basé étrangement, dans une pensée athée.
Alors, on va un peu s'intéresser aux œuvres maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment Cthulhu, l'appel de Cthulhu, a été écrit ?
In spite of the fact that we have so much documentary evidence about Lovecraft, he really doesn't talk about the creation of this particular story as much as we would like.
Même si on possède une quantité impressionnante de documents et de d'informations sur Lovecraft, malheureusement, il ne parle pas, il ne s'épanche pas assez sur ce roman dont on aimerait savoir plus, évidemment.
What he says is that he had come up with the plot of the story in 1925 when he was still in New York, but he couldn't write the story there because the atmosphere of New York was very stifling and it didn't allow his creativity to flourish.
Alors il dit lui-même qu'il avait déjà trouvé l'inspiration pour cette histoire dès 1925, quand il était à New York, mais que l'atmosphère étouffante, oppressante à New York, elle avait inhibé. Il n'y était pas, il ne pouvait pas aller plus loin dans la rédaction de cette œuvre tant qu'il était à New York.
But when he returned to Providence in 1926, it seemed to open up the floodgates of his creativity, and he wrote a number of stories, including The Call of Cthulhu.
Mais quand il est retourné à Providence en 1926, justement, le barrage a cédé. Et là, voilà, toute son inspiration, il a pu laisser libre cours à son inspiration. Et il a donc écrit L'Appel de Cthulhu et d'autres, tout un tas d'autres nouvelles dont nous parlerons plus tard.
I think at this time, Lovecraft had assimilated two important influences, literary influences. One from the Irish writer Lord Dunsany. Dunsany had created an entire imaginary realm populated by gods and demigods.
Et à l'époque, Lovecraft subissait l'influence de deux grandes figures littéraires. La première, c'était l'écrivain irlandais Lord Dunsany, qui avait créé tout un royaume imaginaire peuplé de dieux.
The other influence was the Welsh writer Arthur Machen, who in many of his tales featured the idea of a strange half-human civilization dwelling on the underside of society.
Et puis la deuxième influence très marquante à l'époque, c'était l'écrivain gallois Arthur Machen, qui avait créé une civilisation semi-humaine, vraiment étrange, qui vivait sous notre civilisation à nous.
I think Lovecraft combined these two ideas and others to make The Call of Cthulhu, but I must emphasize, it is still an enormously original contribution to literature.
Donc on peut dire que Lovecraft a fait fusionner ses propres idées et celles qu'il avait puisées chez d'autres pour créer l'appel de Cthulhu. Mais je voudrais quand même bien insister sur le fait que voilà, il y a énormément d'originalité de la part de Lovecraft.
Comment est-ce que vous décririez les héros lovecraftiens ?
Many of Lovecraft's protagonists are scientists or scholars who are seeking to explore the strange and the bizarre.
La plupart des protagonistes chez Lovecraft, ce sont des scientifiques ou des érudits qui ont vraiment à cœur d'explorer l'étrange.
In some sense, I think this was a bit of wishful thinking for Lovecraft, a wish fulfillment, because Lovecraft, I think, was ashamed that he himself never graduated from high school, did not go to college, did not himself become a scholar.
Alors je crois qu'on pourrait dire que en écrivant, en créant des personnages comme ça, Lovecraft essayait un petit peu de s'exaucer, quoi, d'exaucer des désirs qui étaient restés inassouvis parce que lui, il avait un petit peu honte de ne jamais avoir été à l'université, de jamais avoir obtenu de diplôme universitaire.
Now, these protagonists are all highly rational, scientific individuals, but when they encounter the bizarre, they suffer a kind of madness because their entire view of the world has now been shattered because of the encounter with the supernatural.
Ah oui, donc ces protagonistes sont des individus très très rationnels, très très scientifiques, comme je le disais. Mais quand ils font la rencontre justement de l'étrange et du bizarre, eh bien, ils basculent pour la plupart dans la folie. Et ils découvrent justement un monde qui est vraiment très très loin de la rationalité qui leur est si chère.
And I think that what Lovecraft is doing here is studying the psychology of fear and terror. In some ways, this was inspired by Edgar Allan Poe. Poe was a very keen student of the psychology of terror. But Lovecraft makes it a cosmic phenomenon as these scientists realize how insignificant the entire human race is within the realm of the cosmos.
Oui, donc Lovecraft, il avait vraiment envie, en fait, d'étudier la psychologie de la peur et de la terreur, un petit peu comme Edgar Allan Poe à son époque. Parce qu'Edgar Allan Poe avait vraiment étudié en profondeur et de manière très très assidue cette facette-là de la peur et de la terreur. Mais Lovecraft, lui, il va encore plus loin parce qu'il donne une dimension cosmique. Il transforme cette psychologie de la peur en un phénomène cosmique, en mettant en scène des individus, des scientifiques qui se rendent compte à quel point la vie humaine est insignifiante dans le cosmos.
Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler des montagnes hallucinées ?
This, to my mind, is the height of Lovecraft's achievement. And it was a novel long in gestation.
Alors, pour moi, vraiment, Les Montagnes Hallucinées, c'est vraiment l'apogée du travail de Lovecraft. Et ce livre, justement, a une gestation très, très longue.
Lovecraft, as a student of science, had exhibited an interest in the Antarctic since at least the age of 10, because that exactly was the time when certain new explorations of the Antarctic were occurring.
Lovecraft, en tant qu'étudiant en sciences, avait justement s'était penché sur la thématique de l'Antarctique dès l'âge de 10 ans, d'ailleurs, très très tôt, parce que à cette époque-là, justement, de nouvelles expéditions étaient en cours et on découvrait de nouvelles choses à propos de l'Antarctique.
But I think Lovecraft did not find a means of expressing this fascination for many years. But then, in 1928, the American explorer Richard Byrd undertook an extensive trip to the Antarctic that was reported in newspapers throughout the country.
Mais Lovecraft, à cette époque-là, il n'avait pas vraiment trouvé le bon moyen de laisser libre cours à sa fascination, ou d'aller plus loin justement dans cette fascination pour l'Antarctique. Mais ensuite, en 1928, le scientifique Richard Byrd a justement mené une excursion en Antarctique qui a eu beaucoup de retentissement et qui a été relayée dans la presse de l'époque.
So Lovecraft began writing the novel in early 1931 and finished it only in about 6 or 7 weeks. But I think, in addition to being inspired by the Antarctic, he had now developed a new conception of the weird tale.
Donc Lovecraft a commencé à rédiger cette œuvre en 1931, et ça a été très rapide. En 6 ou 7 semaines, il avait terminé son manuscrit. Et en fait, je crois qu'il venait de donner une nouvelle inspiration, un nouveau regard sur l'Antarctique.
What Lovecraft was now believing is that the weird tale must be based upon what is currently known about science. In that sense, it should be a fusion of traditional supernaturalism with the new field of science fiction.
Oui, et aussi à cette époque-là, au moment où il venait de finir d'écrire Les Montagnes Hallucinées, Lovecraft avait non seulement découvert de nouvelles vues sur l'Antarctique, mais surtout une nouvelle façon de concevoir l'étrange. Et pour lui, il venait de montrer qu'en fait, pour créer des récits étranges, il fallait donc se baser sur les découvertes actuelles scientifiques et fusionner ça avec le surnaturel.
And to my mind, the fusion of these two elements reaches its height in At the Mountains of Madness. There is tremendous scientific verisimilitude in the initial chapters of that novel. But then the novel becomes increasingly strange and bizarre. And to my mind, the encounter with the Shoggoth, this odd protoplasmic entity in the depths of the Antarctic, may be the single most terrifying passage in literature.
Et à mon avis, cette fusion justement entre faits scientifiques et surnaturels, elle atteint justement voilà le fait, enfin son apogée dans Les Montagnes Hallucinées. Donc l'œuvre commence avec des faits assez, c'est assez factuel au début, très très scientifique, et puis ça bascule tout à coup dans l'étrange avec cette rencontre avec cette créature protoplasmique dans les fonds marins de l'Antarctique, le Shoggoth. C'est pour moi, je crois, un des moments les plus terrifiants de toute la littérature.
Alors, il y a des jeux vidéo, il y a un jeu de rôle très célèbre qui est culte, il y a des bandes dessinées sur les œuvres de Lovecraft et sur la vie de Lovecraft. Comment vous expliquez la Lovecraftmania qui monte de plus en plus ?
Michel Houellebecq wrote a little book on Lovecraft, as you may know. I have some problems with that book, but one of the important things he states is that Lovecraft's writing simply ignores many of the important things that most other writers write about, notably the two major issues of sex and money.
Michel Houellebecq, comme certains d'entre vous doivent le savoir, a écrit un petit livre sur Lovecraft. Bon, je suis pas tout à fait, c'est pas trop ma tasse de thé ce livre-là, mais dedans Houellebecq dit quelque chose d'intéressant, c'est que Lovecraft, il a dans ses écrits, il a totalement ignoré deux notions qui sont quand même en général reprises, enfin traitées par tous les écrivains, à savoir le sexe et l'argent.
What this means is that Lovecraft's work becomes timeless in a way that many, much other writing of his generation does not. We do not need to understand the social and cultural trends of his time to understand his fiction.
Et donc, par là même, l'œuvre de Lovecraft prend une dimension complètement atemporelle. Et on n'a pas besoin de connaître la culture, l'environnement socio-culturel de son époque pour s'emparer, s'approprier des œuvres de Lovecraft. Et c'est ce qui fait qu'elle fait date, qu'elle se transmet de génération en génération et qu'elle touche les générations actuelles.
And of course, this Cthulhu mythos that he created appears to be capable of endless expansion. Lovecraft himself, I think, had only begun to expand upon these conceptions when he died. He could have written many, many more stories. And of course, his friends, colleagues, and disciples have continued to expand this conception. And that is, I think, how Lovecraft has become so famous worldwide.
Bien sûr, quand Lovecraft a commencé ce mythe de Cthulhu, il s'est lancé dans une exploration qui aurait pu être sans fin, éternelle. Et je crois qu'il n'a fait que, finalement, que les premiers pas dans cette direction-là. Et que s'il n'était pas décédé si jeune, les choses auraient pu continuer, auraient pu aller beaucoup plus loin sur ce mythe-là. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de ses amis, de ses collègues, de ses disciples, etc., ont repris le flambeau pour continuer à explorer cet univers fascinant.
Alors pour ceux qui voudraient le savoir, le livre de Michel Houellebecq s'appelle H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie. Voilà. On va maintenant évoquer une partie un peu plus sombre de Lovecraft. Quel regard vous portez sur les récentes accusations de racisme auprès de l'auteur? Et est-ce que, à la fin de sa vie, Lovecraft avait pris du recul?
Let's be clear. There is no doubt that Lovecraft was indeed a racist. But I felt that as a biographer, it was not my role merely to condemn Lovecraft for his views, but to seek to understand their sources.
Oui, bon, voilà, faut quand même poser les choses à plat. Lovecraft, oui, était quelqu'un, voilà, il était raciste. Hein, mais moi, en tant que biographe, je ne pouvais pas me contenter de condamner l'homme pour ses idées. Je me devais d'essayer d'expliquer, de comprendre.
What we learn through a study not only of Lovecraft's own life and upbringing, but also from the historical and cultural trends of his day. Was that it would have been very difficult for Lovecraft not to have been a racist.
Et ce qu'on apprend justement en se penchant de plus près sur la question, c'est que, et en découvrant des informations sur la vie de Lovecraft et sur son éducation, son environnement familial, socioculturel, historique, eh bien on se rend compte qu'il aurait été vraiment très difficile pour lui de ne pas être raciste.
I focus on Lovecraft's family. The family had felt that it was part of the aristocracy of Providence, but it had suffered a significant economic decline, and in Lovecraft's day they were quite poor, so all they had was pride in their ancestry. So it was perhaps natural that they lashed out against the immigrants who they felt were changing the city of Providence.
La famille de Lovecraft, en fait, avait une perception de soi comme faisant partie de l'aristocratie de Providence. Mais en fait, cette famille, finalement, c'était plutôt des aristocrates déchus. Et ils ont vraiment, au niveau économique, connu un très grand déclin. Et à l'époque où Lovecraft a grandi, ils vivaient même dans une certaine pauvreté. Donc tout ce qui leur restait, finalement, c'était cet orgueil et cette sorte de fierté dans leurs racines, dans leurs ancêtres. Et donc, on peut se dire qu'il paraît naturel que Lovecraft, que la famille de Lovecraft se soit mise à tirer à boulet rouge et à attaquer les immigrants qui apportaient une nouvelle donne à la ville de Providence.
Another important point is that Lovecraft believed that science, in particular the sciences of biology and anthropology, had confirmed these views. And to some degree, he was right in the sense that the science of the later 19th century did seem to endorse the view that certain races were superior to others. We now know that this science was false and bogus.
Et oui, il faut rappeler, c'est important de rappeler que, eh bien, il y avait tout un contexte aussi scientifique sur lequel Lovecraft s'appuyait. Parce qu'en fait, à l'époque, beaucoup d'études biologiques ou anthropologiques confirmaient très très sérieusement ces idées comme quoi certaines races seraient supérieures à d'autres. À la fin du 19e siècle, voilà, beaucoup de scientifiques s'accordaient à dire cela. Alors nous, maintenant, évidemment, au XXIe siècle, on sait que ces théories étaient fausses et complètement bidons.
Now, the overthrow of these views took a very long time and was really only beginning in Lovecraft's day, and really wasn't completed till long after his death. So I think a certain historical perspective is always necessary in dealing with a figure like Lovecraft.
Oui, et il faudrait des années et des années, il faudrait énormément de temps pour réussir à renverser ces idées-là. Et ça n'arriverait d'ailleurs pas, enfin, ça n'arriverait d'ailleurs que beaucoup plus tard, beaucoup, enfin, très longtemps après le décès de Lovecraft. Donc, je pense que quand on s'empare de matériaux, de la matière, d'une telle matière que celle qui fait la vie de Lovecraft, il faut vraiment remettre les choses en perspective, surtout au niveau historique.
Alors là. Vous avez donc terminé cette biographie qui a été retravaillée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a eu deux sorties, une sortie dans les années 90, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez ajouté et quels sont vos prochains projets autour de Lovecraft ?
Actually, I wrote the entire biography pretty much as it stands now, between the years 1993 and 1995. But because I myself was not a terribly well-known figure at the time, I had some difficulty attracting a publisher for the book.
Ah non, je dois dire qu'en fait, j'avais déjà écrit entre 1993 et 1995 la biographie à peu près dans l'état où elle vous paraît là maintenant. Mais comme, bon, c'est vrai que moi, j'étais pas très très connu à l'époque, j'ai eu du mal à trouver un éditeur.
So my friend Marc Michaud, French Canadian, who was editing the publisher of Necronomicon Press, said, "Well, I'll be happy to publish this book, but it's just too long. I cannot do it in this full version. So, can we cut it down a little bit?" Well, I cut it down quite a bit, and it was published in 1996 as H.P. Lovecraft: A Life.
Et donc mon ami Marc Michaud, qui est un Québécois, qui est le fondateur et dirigeant de Necronomicon Press, a accepté, lui, de publier la biographie que je venais de rédiger. Mais il m'a dit, par contre, qu'elle était trop longue et qu'il ne pouvait pas la publier en intégralité. J'ai donc joué le jeu, j'ai élagué, j'ai fait des coupures, et la biographie a pu paraître en 1996 sous le titre « H.P. Lovecraft: A Life ».
But I confess that I'd always wished to have the full version published because I spent so much time on it, and because I think the details that I had to leave out are of some interest. So 15 years later, I was now working with Derek Hussey of Hippocampus Press, and he agreed to publish the full version, and did so in 2010.
Mais bon, voilà, je dois avouer que j'avais toujours quand même cette envie de voir la version intégrale paraître un jour, parce que oui, j'y avais consacré énormément de temps, et puis les détails que j'avais été contraint de délaguer, je trouvais qu'ils avaient quand même un certain intérêt. Et donc 15 ans plus tard, j'ai rencontré Derek Hussey de Hippocampus Press, un éditeur américain qui a accepté de publier la version intégrale en 2010.
Et maintenant vos projets sur Lovecraft.
I had mentioned that this book is largely based upon Lovecraft's correspondence, this immense body of work, which I will say comes to a totality of 4 to 5 million words.
Alors comme je l'ai dit plus tôt, en fait ce livre il est vraiment il puise toute l'information qui est vraiment puisée du corpus épistolaire créé par Lovecraft, qui est vraiment immense, c'est incommensurable. Je crois qu'au total il s'agit de 4 à 5 millions de mots.
So I have now decided that all his letters, surviving letters, should be published complete and with a thorough annotation. Poor Derek Hussey is now stuck with this project, which may go to about 25 volumes.
Wow. Et donc j'ai décidé que toutes ces lettres, toutes celles qui ont survécu, méritent et se doivent d'être publiées dans leur intégralité. avec des notes précises. Et donc, mon pauvre ami Derek Hussey, il se retrouve coincé parce que, voilà, il est obligé il se retrouve embringué avec moi dans ce projet qui va peut-être nous amener jusqu'à 25 volumes.
Alors, avant de passer aux questions-réponses, je vais juste demander à Christophe Thiel, qui est là, qui a participé à la traduction, qui a dirigé la traduction, est-ce qu'il peut juste nous dire quelques mots sur comment on traduit un pavé, enfin deux pavés comme ça.
Merci Lloyd. D'abord, c'est un travail qu'on ne fait pas tout seul. Puisque ActuSF a bien voulu me confier la tâche de diriger cette traduction, la première chose a été de bien m'entourer. Le bien a consisté à sélectionner 10 personnes qui sont tous et toutes des traducteurs, à la fois des personnes professionnelles et des gens que je connais personnellement, que j'aime bien, que j'apprécie, de manière à être sûr que j'allais travailler dans de bonnes conditions. Mon rôle ensuite a consisté à poser le cadre, à prendre les décisions communes, à dire comment on allait citer telle référence, à dire comment, quelles abréviations il fallait utiliser, où il fallait mettre des italiques, quels sont les passages, les titres qu'il fallait ne pas traduire, les titres qu'il fallait traduire, comment dire. Et puis ensuite, une fois que les chapitres avaient été distribués entre les traducteurs en fonction de leurs affinités, c'est-à-dire que chaque traducteur pouvait dire qu'il était plus particulièrement intéressé par tel ou tel chapitre en fonction de son thème, eh bien, à leur retour, j'ai passé une couche par-dessus en vérifiant qu'il y avait une certaine unité dans l'expression, que certains petits traits d'humour qui avaient pu être ajoutés par certains traducteurs, dans certains cas restaient, mais dans d'autres cas, c'était un peu too much, donc j'ai un petit peu raboté les aspérités. Et puis, voilà le résultat final. Combien de temps ? Eh ben, un an de travail pour 10 personnes, voilà, ça fait pas mal.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et malheureusement, on n'a pas de micro, donc il va falloir parler très fort. Oui.
Vous avez des choix à faire sur ce qu'il faut faire du titre d'une œuvre étrangère qui ne possède pas de traduction française. Donc le choix que nous avons fait, que vous retrouverez dans le livre, c'est que le titre est donné en original, donc dans la quasi-totalité des cas en anglais, accompagné entre crochets d'une traduction française de ce titre qui permet de dire au lecteur non anglophone ce que ça veut dire. Voilà.
Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. Est-ce que ça vient de la pierre tombale?
The significance of... Well, yes. The statement "I am Providence" was made by Lovecraft when he was discussing with his aunts, should I just come back? He was living in New York. Should I just come back to Providence? They proposed maybe you should go to Boston because it has more. Possibilities for work.
En fait, cette citation, I am Providence, je suis Providence, en fait, elle a été formulée par Lovecraft au moment où il était en pourparlers, il avait consulté ses tantes, dont il était très proche, au moment où il habitait à New York, et où il se demandait s'il ne devrait pas revenir à Providence. Et elle lui avait suggéré d'aller peut-être à Boston, où il y aurait sans doute plus d'opportunités professionnelles pour lui.
But Lovecraft, of course, really wanted to come back to Providence, and that's when he said, I am Providence, I am so tied to this city that I could not be happy anywhere else.
Mais évidemment, Lovecraft, lui, il avait vraiment, vraiment envie de revenir à Providence, donc c'est là qu'il a dit, je suis Providence, c'est là que je veux vivre, je ne me vois pas ailleurs.
Now, when Lovecraft died, there was no separate headstone for himself or his mother. His name only appeared on the central shaft of the Phillips family plot.
Et donc, quand Lovecraft est décédé, il n'y a pas eu de pierre tombale attitrée. Il y avait une pierre tombale commune à la tombe de sa mère et à la sienne, et son nom apparaissait justement au milieu de cette pierre tombale.
But in 1977, the fans and disciples of Lovecraft raised money to set up headstones for Lovecraft and his mother, and that's when the statement "I am Providence" was placed there.
Et donc, mais en 1977, des fans et des disciples de Lovecraft ont décidé de collecter des fonds pour justement faire une pierre tombale séparée. Et il n'y aurait que Lovecraft et sa mère, et pas le reste de la famille.
Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, au fond, parlez fort, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais résumer pour que tout le monde puisse entendre. Donc, vous avez dit, et c'est ça, hein, Conan était ami, enfin pardon, Robert E. Howard, l'auteur de Conan, était ami avec Lovecraft. Ils ont beaucoup échangé de lettres ensemble. Et votre question, c'est de savoir si d'autres célébrités ou d'auteurs qui sont devenus célèbres ont été influencés ou ont travaillé avec l'œuvre de Lovecraft.
Part of the reason why Lovecraft became such a revered figure in his own time is that he helped so many other writers to make themselves better, especially younger writers like Derleth, Robert Bloch, Fritz Leiber, C.L. Moore, a number of others.
Oui, ce qui a fait que Lovecraft a atteint cette notoriété, c'est que de son vivant, il a aidé énormément beaucoup d'autres jeunes auteurs à s'améliorer. Il a donné beaucoup de conseils, etc. Il a aidé notamment Robert Derleth, August Derleth, Robert Bloch, C.L. Moore, and you said another one?
Fritz Leiber
et beaucoup d'autres.
And so when they started writing these stories, I think other people who are not associated with Lovecraft said, well, I can write these stories as well. And that's how this tremendous flourishing of the Cthulhu mythos developed over the years.
Et donc, quand justement ces histoires, ces romans et nouvelles écrites par d'autres personnes, mais inspirées par Lovecraft, ont commencé à apparaître et à se faire connaître, mais il y a tout un tas d'autres écrivains qui n'étaient pas du tout associés à Lovecraft, mais qui se sont dit qu'eux aussi pourraient s'essayer à une prose qui ressemblerait à celle de Lovecraft, parce que ça les inspirait. Et c'est là qu'a commencé à se créer tout ce florilège. C'est là qu'a commencé vraiment à fleurir justement le mythe de Cthulhu.
I don't know if you have this term in French, but we people have said that Lovecraft has created the first shared world universe where many different writers can contribute and add to this conception.
Je ne sais pas si vous avez une expression, vous, en français pour le dire, mais nous, on dit aux États-Unis que Lovecraft, il a créé vraiment le tout premier univers partagé, c'est ça ? Ouais. Thanks, Lloyd. Le tout premier univers partagé dans lequel beaucoup d'auteurs pouvaient puiser et aussi s'inscrire.
Yes, and in some ways the heart of the Cthulhu mythos is this mythical volume, the Necronomicon. And again, we do not really know how he came to invent this volume. But I have a feeling there were a number of different factors.
Oui, c'est vrai qu'au cœur du mythe de Cthulhu, il y a justement ce fameux Necronomicon, ce livre, le Necronomicon. On ne sait pas vraiment... comment il en est venu à l'inventer, mais... What did you say then? You have a feeling that... Ah oui, c'est ça. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à l'invention du Necronomicon.
In the most essential sense, the Necronomicon embodies Lovecraft's own fascination with books and with determining the truth about reality. He was a man who was devoted to books throughout his life, and the idea of a book that contained the ultimate secrets of nature was incredibly fascinating to him.
Oui, alors dans le Necronomicon, ce qui est vraiment, c'est un livre vraiment essentiel, et ça montre aussi la fascination que Lovecraft pouvait avoir pour le livre, pour l'objet livre. Et puis, j'ai un peu perdu le fil là. Ah oui, voilà. Et la façon dont on peut déterminer la réalité. Et oh non, I'm sorry, I'm really lost on this one. Yeah, I try. Et oui, et le fait de, oui, non, ça me revient. Et le fait justement de d'écrire un livre qui pourrait justement contenir tout le toute la vie, tout le processus de la vie de A à Z, et un livre qui contiendrait le secret ultime de la nature. Mais c'était pour Lovecraft un très grand accomplissement.
And as for why the Necronomicon was written by an Arab, Abdul al-Hazred, Lovecraft had become fascinated with the Arabian Nights at a very early age, perhaps as early as 5 or 6. In fact, I have seen the copy of the Arabian Nights that Lovecraft's mother gave to him, a fascinating book. And he also says that he came up with the name Abdul al-Hazred around this time, perhaps helped by some adult figure.
Et donc, quant à la question de savoir pourquoi est-ce que c'est un arabe qui a écrit, soi-disant écrit le Necronomicon, donc ce fameux Abdul al-Hazred, bien en fait, il faut savoir que Lovecraft était fasciné par les mille et une nuits qu'il avait découvert à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai moi-même eu la chance de voir de mes propres yeux les exemplaires que la mère de Lovecraft lui avait donnés à cet âge-là. Et Lovecraft a pu aussi ajouter que ce personnage qu'il avait inventé, Abdul al-Hazred, qui aurait donc créé le Necronomicon, c'est peut-être un adulte aussi qui lui aurait soufflé l'idée.
Très bien. Mais écoutez, merci, merci beaucoup. Merci à Esti Joshi. Merci aussi à Morgane pour la traduction. Et merci à Christophe Thiel d'avoir participé aussi. Et alors, vous pouvez trouver donc la biographie Lovecraft juste à côté. Et je crois qu'il reste encore des slots pour pouvoir faire dédicacer le livre par Esti. Voilà. Merci beaucoup.